parle dans le micro.
Comme ça m'angoisse les interviews, j'arrive pas à parler
c'est
en là, plus.
C'est mémorable. On passe à la radio aujourd'hui quand même.
C'est l'enfer.
Studio Zephyr Vendôme, c'est sur le 91.7 FM. Et partout dans le monde sur studiozeph.fr.
Chers auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue sur Studio Zeph. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Cléo, avec qui nous allons vous présenter deux classes de seconde STHR du lycée hôtelier, qui ont souhaité vous présenter une émission en lien avec la culture hispanophone.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer par Luna et Valentin. Donc, on a tous des clichés sur l'Espagne et vous allez nous en dire plus sur ce qui n'est pas cliché et ce qui est cliché.
Exact. Bonjour, oui, en effet. Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter l'Espagne inconnue de tous.
Para ti, ¿qué representa España?
Para mí, España representa el flamenco.
Para mí, España representa el mar.
Para mí, España representa el mar.
Para mí, España representa Marbella y la playa.
Para mí, España representa bailar y la fiesta.
En Espagne, il y a la plage et la fête, mais est-ce que tu sais qu'il y a aussi des pistes de ski ?
Non, c'est vrai !
Non, il y a les pistes de ski en Espagne. Vraiment, où ça ?
Hé Lionel, est-ce que tu savais qu'en Espagne, tu pouvais aussi skier ?
Hein ? Comment ça, skier ?
Tu vois, en Espagne, il y a des plages, la mer et tout, mais il y a aussi des pistes de ski.
Ah bon ?
Je pensais que moi, c'était des endroits chauds, des endroits... Je pensais pas qu'il pouvait y avoir des pistes de ski.
Eh bah si. Mais dis-moi Cléo, tu savais toi qu'il y avait des pistes de ski en Espagne ?
Bah non, j'en avais aucune idée, tu viens de m'apprendre quelque chose.
Mais alors, s'il y a des pistes de ski, où sont-elles ?
Eh bien justement, en Andalousie qui n'est pas entourée que de plages et de mer, puisqu'il y a une des chaînes de montagnes les plus connues d'Espagne, la Sierra Nevada.
La Sierra Nevada est une chaîne de montagnes qui va de 2100 à 2300 mètres d'altitude, qui est en plus facile d'accès. Elle est connectée aux villes principales d'Espagne grâce aux avions, aux trains et aux autoroutes. C'est aussi à une trentaine de kilomètres de Grenade. Dis-moi Luna, on peut y faire quoi à la Sierra Nevada ?
Eh bien maintenant que tu le dis, il y a 120 pistes de ski pour les sports d'hiver et 23 remontées mécaniques. Ensuite, comme activité, on peut y faire du slalom ou encore la première empreinte qui consiste à faire les premières traces de ski sur la neige. Mais il n'y a pas que ça, on peut aussi faire des excursions en raquettes de neige ou encore des balades en dameuse. Nous pouvons aussi faire de merveilleux dîners en altitude. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait rêver de dîner sur les sommets de la Sierra Nevada.
Mais il n'y a pas que le ski. En été, on peut y faire des randonnées, de l'escalade et il y a aussi des piscines naturelles. Et vous avez la garantie d'une vue de rêve en toute saison.
Eh bien, merci beaucoup. C'était très intéressant.
Est-ce que toi, Valentine, tu savais qu'il y avait des pistes de ski en Espagne ?
Bah non, pas du tout. Bah, du coup,
et alors, ça te donne envie d'y aller ?
Bien sûr.
Ok, et eh bien merci beaucoup Aluna et Valentin. Et donc maintenant, on va passer à quelque chose d'autre qui n'a rien à voir. Mais quand même un petit peu dans la culture de l'Espagne.
Ouais, bah justement, en parlant d'Andalousie, ça vous évoque pas quelque chose ? Une danse très culte ? Le flamenco, bien évidemment. Et bien justement, Anaïs et Mathilde sont venues nous en parler.
Bonjour mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous avons décidé de diffuser l'interview réalisée avec Alma Ryan, qui est professeure de danse contemporaine au Conservatoire de Chartres. Elle a étudié le flamenco à Séville et a vécu en Espagne. Elle nous parle ici de ses études et de l'histoire du flamenco.
Buenos días.
Bonjour.
Buenos días,
bonjour
Mathilde.
Comment te llamas ?
Comment t'appelles-tu ?
Me llamo Alma.
Je m'appelle Alma.
¿Cuáles son tu origen ?
Quelles sont tes origines ?
Eh bien,
je suis un mélange en fait. Ma mère est espagnole et mon père est anglais et je suis née en France.
Pourquoi
as-tu choisi d'étudier la danse en Espagne ?
Bueno, eso es una larga historia.
Bon, c'est une longue histoire, mais bon, j'ai toujours dansé et en même temps, je voulais retourner en Espagne.
Vale. Ha sido como a la vez yo quería como volver a España porque era como una
parce que c'était comme une recherche familiale, disons, pour retourner sur la terre de ma mère, même si ma mère est née à Madrid. J'ai décidé d'aller en Andalousie. C'est-à-dire plus au sud de l'Espagne, à Séville. Et j'ai toujours aimé le flamenco. Je n'avais pas dansé le flamenco en France, mais j'avais vu des films sur Calas Ahora, par exemple. Et j'avais aussi vu un spectacle de la compagnie Antonio Gades.
Et aussi, j'avais vu un spectacle de la compagnie Antonio Gades.
Et ça m'avait tellement plu que j'ai décidé d'y aller aussi. Et c'était un peu une coïncidence car j'avais auparavant dansé, bien sûr, de la danse contemporaine et aussi du tango argentin. Eh bien, le flamenco était un peu un mystère pour moi, mais il était important pour moi de l'étudier.
Quel estilo has estudiado?
Quelle danse avez-vous étudié en Espagne?
Alors, en Espagne, donc, j'ai étudié le flamenco, mais bien évidemment, dans le flamenco lui-même, il y a plusieurs disciplines, on va dire. Donc, il se trouve qu'à l'époque, donc, j'ai eu la chance d'étudier la première année dans une école qui n'existe plus maintenant, mais qui était l'école de Miguel Vargas et Esperanza Fernández. Donc, Esperanza Fernández, c'est une chanteuse gitana assez connue. Et donc, à l'époque, ils avaient une école où il y avait vraiment l'idée d'une école professionnelle avec toutes les disciplines. Donc il y avait des cours de bata de cola, qui est une technique à part entière avec une robe ou une jupe très longue. Donc là c'est vraiment une technique de mouvement pour faire voler la jupe, etc. Il y avait des cours de technique flamenca, donc ça c'était vraiment des cours techniques de pied, zapateado, comme on dit, ou de marcaje, enfin c'était vraiment purement technique. Et ensuite on avait aussi des cours de chorégraphie, on avait des cours de chant pour danseuse, parce qu'effectivement en flamenco une danseuse ne peut pas danser si elle ne connaît pas le répertoire et le chant, parce qu'il y a vraiment cette idée de danser pour et avec le chant. Donc c'est pas les musiciens à l'arrière et puis la danseuse devant, c'est vraiment un tout. Il y avait aussi des cours de palmas, donc ça c'est vraiment juste étudier comment on frappe dans les mains et à compas, donc en rythme. Il y avait des cours de pratique de maniement des castagnettes, des cours de danse classique également, donc c'était vraiment assez complet. Et après, les années suivantes, j'ai fait d'autres écoles, notamment Flamenco Danza, qui est une école qui a été montée par Ursula et Tamara López, qui sont deux sœurs. Et là encore, donc je faisais de la danse classique. Donc Tamara, en fait, elle enseigne toujours la danse classique, le classique espagnol, donc qui comprend la danse estilizada avec chaussures de flamenco et castañuela. Également, je faisais aussi du flamenco. Et à côté, j'ai continué à prendre des cours particuliers, notamment avec la Choni, qui a toujours été ma maître privilégiée, on va dire, notamment de bata de cola. Enfin, elle s'est spécialisée en bata de cola. J'ai continué aussi à prendre d'autres cours particuliers avec d'autres maîtres, comme El Torombo. Donc là, c'était plus dans des studios. Chaque maître, parfois, peut avoir son école, mais peut avoir aussi un studio. Voilà, je crois que j'ai tout dit, il me semble.
Combien de temps avez-vous vécu en Espagne?
Alors, au total, j'ai vécu 6 ans en Espagne. Bon, il se trouve que ça n'a pas été toujours linéaire. La première année, donc, je suis restée 9 mois, je suis rentrée en France, je suis repartie 5 mois. Et après, il y a eu vraiment le déclic de me dire, c'est Alma, il faut absolument que tu restes plus longtemps. Ça pouvait être un an plus, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Le temps qui était nécessaire pour moi, je n'avais pas de plan prédéfini. Mais je sentais qu'il fallait que je creuse et que c'était pas en 2 ans que j'allais être professionnelle aussi en flamenco. Et puis, bien entendu, maintenant que je suis entrée en France, je retourne à Séville très régulièrement. Donc ça peut être chaque vacances, j'essaye d'y aller.
Dans quelle ville avez-vous étudié et pourquoi?
Alors, comme je le disais auparavant, moi j'ai atterri, on va dire, à Séville. Ça s'est fait un peu par hasard. Mais c'était aussi... j'ai tout de suite adoré la ville. Je m'y sens toujours bien quand j'y vais, d'ailleurs. Et bien sûr, il y a d'autres lieux, il y a d'autres berceaux du flamenco, on va dire. Enfin, l'Andalousie, c'est quand même le berceau du flamenco, mais il y a Jerez de la Frontera, qui est pas loin de Séville, il y a Granada, il y a Cali. Donc, Séville, c'est quand même une ville assez connue pour le flamenco. Après, chaque ville a un peu son style. Donc ça, je l'ai découvert un peu après, mais... Granada, c'est un style beaucoup plus sauvage, on va dire. Alors que Cali, c'est la ville portuaire, donc là-bas, on danse beaucoup l'alegría de Cali, par exemple. Et puis Jerez, c'est plus ritano puro, la bulería, par exemple. Et ensuite, Séville, c'est un style, on pourrait traduire ça par un peu coquet, où il y a une certaine élégance, il y a une école sévillane, en fait. Et d'ailleurs, une des grandes danseuses, qui maintenant est assez, ne danse plus, mais c'était Mathilde Cora, qui s'appelle comme toi, donc Mathilde, et qui avait un style, qui dansait beaucoup en bata de cola. et qui avait un style très féminin, très élégant, très avec beaucoup de mouvements de poignets. Voilà, il y avait un côté très l'école sévillane, c'est un peu c'est très élégant, c'est à la fois coquet mais au sens sensuel, mais un peu il y a un peu l'idée de quelque chose
de chic.
C'est pas vraiment ça le terme, c'est plutôt on joue beaucoup sur la complicité avec le public, donc il y a un peu de complicité, ou c'est un peu malicieux, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit.
Comment est le système scolaire espagnol?
Alors, donc c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas dans mes études en danse, en tout cas. Il n'y a pas un système prédéfini en flamenco. Bien sûr, il y a des conservatoires qui, là, il y a une logique de premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, etc. Il y en a notamment à Madrid, il y en a aussi à Séville. Mais moi, j'ai plutôt fait le choix de faire des études dans des écoles privées, avec des maîtres. Donc, il y a plutôt une logique un peu comme en jazz, en fait. En France, tu peux très bien faire une école de jazz, bien sûr, mais il y a aussi tout cet aspect de relation maître-élève, pas juste professeur-élève, mais vraiment maître, où voilà, tu as ton école privée, mais tu fais des répétitions, et puis tu as des rencontres, tu suis ton maître, on va dire. Donc c'est pas du tout la même logique qu'un système scolaire, avec des années, avec... C'est un peu différent. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question.
Quelle est l'histoire du flamenco?
Alors, l'histoire du flamenco, elle est très complexe. Elle se renouvelle d'ailleurs régulièrement. On pense, d'ailleurs, je ne suis pas historienne de flamenco, mais on va dire que, voilà, dans les grandes lignes, on pense, une des théories, c'est qu'une partie de la population en Inde, probablement ce qu'on appelait les intouchables, donc des bohémiens, serait parti d'Inde et serait arrivé en Andalousie environ vers 1492. Se serait installé et progressivement, de par la rencontre avec des autochtones, les Andalous, y a eu le folklore s'est mélangé, les manières de vivre, etc. Mais c'est surtout quand ces gitans sont devenus un peu plus sédentaires. Ça a mis énormément de temps, bien sûr, et le mot flamenco est apparu bien plus tard, au 19e siècle, avec ce qu'on appelait les café cantantes. Donc là, il y a eu vraiment la professionnalisation du flamenco. Mais le flamenco, à la base, c'était un art, on va dire, dans l'intimité, populaire, dans les familles, ou dans les champs, dans les mines. Par exemple, il y a des... D'où l'importance, d'ailleurs, de connaître le chant. Il y a dans le répertoire, par exemple, ce qu'on appelle le taranto. C'est un chant qui parle justement des mines, du travail des miniers, puis les risques, etc. Et c'est un style d'ailleurs assez tragique. On danse, alors que par exemple l'alegría, qu'on pourrait traduire par la joie, tout simplement, c'est un répertoire donc très joyeux. Et quand on danse l'alegría de Cádiz, les chants traditionnels, ça parle du port, du marché, où on vend du poisson. Voilà, il y a tout un paysage, on va dire, dans les chants. Donc le chant parle beaucoup de l'histoire du flamenco, en fait. Et il se trouve que c'est vraiment l'idée aussi du mélange et... Donc du mélange entre des gitans et des autochtones, mais aussi il y a bien sûr des influences de la culture juive, de la culture musulmane, de la culture chrétienne, même dans l'architecture on le voit très bien, c'est dit, mais voilà, dans le flamenco il y a tout ça. Et ensuite, au fur et à mesure, le flamenco a continué à évoluer, par exemple avec Camarón ou Paco de Lucía. Il y a des instruments qui sont venus petit à petit se rajouter dans le répertoire, parce qu'on pense que le flamenco au départ c'était plutôt du chant, un peu on pourrait faire le rapprochement avec le gospel par exemple, c'est-à-dire c'était quand même un chant très lié à la dureté de vivre ou au quotidien. Voilà, il y a à la fois des chants tragiques, mais il y a aussi des chants bien sûr joyeux, ça recouvre toutes les émotions. Et du coup, pour revenir à Camarón et Paco de Lucía, donc au départ, c'était plutôt du chant. Après, il y a eu l'apparition de la guitare et de la danse. D'ailleurs,
On sait que il y avait beaucoup de danseurs ou danseuses qui étaient à la fois chanteurs, à la fois guitaristes, à la fois danseurs, en même temps. Et puis petit à petit, ça s'est professionnalisé. Donc Camarón et Paco de Lucía, eux, ils ont progressivement, il y a aussi Lola et Manuel, bien sûr, qui ont beaucoup apporté au flamenco. Il y a eu, par exemple, maintenant, la flûte traversière. Dans le flamenco, il y a le violon, il y a le piano, il y a d'autres instruments. Et également le cajón, qui est un instrument quand même maintenant très lié au flamenco. Ça n'existait pas avant. C'est un instrument qui vient de Cuba. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle le répertoire de ida y vuelta, des allées-venues. Voilà, le flamenco continue en fait à se nourrir, mais je dirais que c'est extrêmement complexe, mais le plus important, il faut bien comprendre que le flamenco c'est vraiment une histoire de mélange, de rencontre, et c'est pas linéaire, et il y a vraiment beaucoup de théories dessus.
D'accord, merci.
Merci. Merci à Alma qui nous a consacré de son temps. Mais Mathilde, dis-moi, d'où connais-tu Alma ?
Alors moi, je la connais du conservatoire. Elle a été ma professeure de danse contemporaine. J'ai donc facilement pu la contacter pour convenir d'un rendez-vous.
Est-ce que tu as déjà dansé le flamenco ?
Eh ben oui, justement. J'ai fait une masterclass de découverte l'année dernière.
Qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Moi, j'ai beaucoup aimé les jeux de regard et les jeux de poignet. Ça a été super intéressant.
Merci de nous avoir fait découvrir Alma et ton expérience du flamenco.
Bah, ça a été super intéressant, je trouve, d'avoir pu écouter Alma et d'avoir pu découvrir un peu plus le flamenco. Et maintenant, si je vous parle de la fête des morts, vous connaissez tous, à mon avis, El Dias de los Muertos. Alanis, Léane et Jade vont nous en parler.
Bah, merci beaucoup, en tout cas. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour à Cléo et Valentine et à mes amis Léane et Jade.
Bonjour.
Bonjour.
Comme le disait Cléo, aujourd'hui nous allons parler de El Día de los Muertos, le jour des morts en français. C'est une fête très célèbre au Mexique.
Donc pour ça, on va faire un mini quiz sur la fête des morts, justement.
Oui, on pourra voir qui en connaît le plus sur le sujet.
Donc chacune de notre tour, on va vous poser une question avec trois propositions pour réponse. Vous aurez seulement 30 secondes pour répondre. Jade, à toi de commencer.
Merci bien. Allez, c'est parti. El Día de los Muertos se déroule. Réponse A. Du 29 au 31 octobre. Réponse B, du 31 octobre au 2 novembre. Réponse C, seulement le 1er et le 2 novembre. Le chrono est maintenant terminé. La réponse était la B, du 31 octobre au 2 novembre.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais le 31 octobre est dédié aux enfants morts, donc à 19h, les proches préparent un goûter et les déposent sur les tombes.
Je ne savais pas du tout et je te remercie pour cette information en plus. Je te passe la parole pour la deuxième question.
Très bien, merci. Je vais vous poser une question sur les traditions pendant la fête. Quel est le nom de la fleur qu'utilisent les Mexicains pendant leur route du lieu de la fête jusqu'au cimetière ? Réponse A. Les Kempatsuchil, aussi appelées les roses d'Inde. Réponse B, les Dahlia Imperialis, une fleur mexicaine. Ou réponse C, les Bolubilis.
Mmh.
Alors les filles, vous pensez que c'est quelle réponse qui est la bonne ?
Bah pour moi, ce serait la première réponse.
Ouais, pour moi aussi.
Eh ben oui, c'est bien la réponse A. Les Kempachusil, les roses d'Inde.
Donc exact, je vais moi-même vous poser une question dès maintenant. Seulement, cette fois-ci, je ne donnerai pas de réponse, vous devrez la trouver vous-même. Donc soyez très attentifs. Que mettent les Mexicains sur les tombes de leurs proches pour leur rendre hommage ? Donc pour vous les filles, que mettent les Mexicains sur les tombes de leurs proches pour leur rendre hommage ?
Je pense des fleurs.
Eh bien, il y a des fleurs, mais il y a aussi des photos, des bougies, des têtes de mort colorées et leur nourriture préférée.
Et leurs tombes sont colorées justement parce que ce n'est pas une fête comme Halloween.
C'est une fête plus joyeuse et colorée et elle sert surtout à rendre hommage à leurs proches et en quelque sorte ramener les morts parmi nous.
D'ailleurs, le symbole emblématique del Día de los Muertos est une femme morte connue au Mexique sous le nom de Katrina. Elle est inspirée de la Calabela Calamutsela. Elle est un squelette féminin vêtu de riches habits et porte un grand chapeau.
Mais d'ailleurs, il n'y avait pas un film sur la fête des morts aussi ?
Ah si si, Coco, le petit garçon qui part dans le monde des morts et qui a une extraordinaire aventure riche en émotions.
Il y a Coco, mais il y a aussi la légende de Manolo et le monde magique de Salma. Et il y a beaucoup de musiques connues qui sont utilisées pour la fête des morts. On peut vous en faire écouter une ?
Oui, ma préférée c'est Yolona de Angela Aguilar.
Eh bien, voici un extrait de cette musique.
Du coup, moi j'ai une petite question pour vous. Pourquoi vous avez choisi El Día de los Muertos ? Il y a une raison particulière
C'est surtout parce qu'on a un peu en commun cette fête, on l'adore toutes. On a Halloween, mais c'est pas pareil, c'est plus coloré, c'est plus festif, c'est un hommage pour leurs proches morts. Donc c'est vraiment. C'est beau.
Bien, merci beaucoup.
Bah merci beaucoup, moi j'ai adoré en apprendre plus et avoir ce petit quiz sur la fête des morts. Donc maintenant on va passer à quelque chose qui me donne encore plus envie. Donc je vais être accompagnée de deux chefs, de deux cuisinières qui nous ont préparé quelques petits gâteaux. Donc Madeleine et Valentine, vous allez nous parler de la cuisine espagnole, mexicaine pardon.
Oui, donc tout à fait. On va d'abord vous présenter l'histoire du Roscón de Reyes. Donc, c'est un gâteau typique d'Espagne avec une dégustation à la clé. Et enfin, l'histoire de la tarte Santiago, qui est aussi un gâteau très célèbre en Espagne. Et bien sûr, il y aura aussi une petite dégustation. Donc, je laisse la parole à Madeleine.
Alors, quelle est l'histoire del Roscón de Reyes ? Tout d'abord, il existe de nombreuses traditions païennes qui, au fil du temps, ont fini par être incorporées dans les célébrations religieuses chrétiennes. C'est le cas de la traditionnelle Roscón de Reyes, qui est généralement dégustée comme dessert ou en goûter le jour des rois, qui est aussi la dernière fête de la période de Noël. Donc, d'après vous, quelle est l'histoire del Roscón de Reyes ?
Bah, je sais pas trop.
Ouais, vas-y.
Tout d'abord, nous devons préciser que cette célébration n'a rien à voir avec la naissance de Jésus ou l'arrivée de leur majesté au portail de Bethléem, du moins à son origine. Nous vous expliquons tout ce que l'on sait de ce délicieux dessert de Noël. Pour connaître l'origine del Roscón de Reyes, il faut connaître l'histoire jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, ou à la mi-saison de décembre et pendant une semaine. Des fêtes païennes étaient célébrées comme commémorées à la fin de la saison agricole. Ces fêtes ont été baptisées les Saturnes en référence et en hommage à Saturne, dieu de l'agriculture et des récoltes. Donc les Saturnales qui sont des Romains, étaient une période de célébration et de joie où les esclaves n'avaient pas de jour de travail, où ils pouvaient se reposer et célébrer les fêtes. La préparation de ce gâteau est devenue traditionnelle, qui a été pratiquée année après année ainsi, et il est devenu l'un des desserts les plus célèbres et populaires de la fête des esclaves. Et maintenant, je vous propose sa dégustation, et vous me direz ce que vous en avez pensé, etc.
Donc les gâteaux vont arriver sur la table et on va pouvoir déguster. Donc je fais passer une petite part.
Nous avons donc invité deux dégustatrices pour tester ce dessert, qui vont nous dire du coup ce qu'elles en pensent.
Donc on va goûter.
Bah, ça ressemble à une brioche.
Non, c'est très bon.
C'est succulent.
Bien joué.
Bah tant mieux alors si ça vous plaît. Nous pouvons donc passer juste après à Valentine qui aura fini sa dégustation juste après.
Aïe. Fancy. Dis-moi. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Tigua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave
Eh bah les filles, merci beaucoup pour cette dégustation. Moi, j'ai une question, parce que personne n'est tombé sur la fève. Y a-t-il une fève dans ce gâteau, comme la galette des rois?
Alors non, je l'ai fait à la façon française, donc il n'y aura pas de fève comme dans la galette des rois. Mais habituellement, pour la tradition espagnole, il y a une fève et il y a aussi un haricot. Le haricot qui signifie que c'est un esprit négatif, donc qui signifie pauvreté, etc. Et la fève qui signifie gloire, loyauté, etc.
Donc si on a la fève, on a la gloire. Ouais. Parfait. Et merci beaucoup.
On a tout.
Après une très bonne dégustation du gâteau de Madeleine, c'est à mon tour de vous présenter l'histoire de la tarte Santiago et j'espère que le gâteau sera aussi bon que celui de Madeleine. Donc la tarta Santiago, c'est un dessert typique de la gastronomie galicienne, Galice qui est située au nord-ouest de l'Espagne, qui est devenu l'un des symboles les plus représentatifs de la région. On ne connaît pas exactement son origine, mais on pense que son histoire remonte au Moyen-Âge. On dit qu'au XIIe siècle, les pèlerins qui arrivaient donc à Saint-Jacques-de-Compostelle pour chercher la tombe de l'apôtre Jacques portaient en offrande un gâteau aux amandes. Au fil du temps, ce gâteau a été popularisé parmi les habitants de la région et c'est donc devenu l'un des desserts les plus emblématiques de la gastronomie galicienne. Donc, en ce qui concerne la recette originale de la tarta Santiago, je vous laisserai chercher les ingrédients et vous me direz si vous avez aimé ou pas. Donc sa forme est ronde et plate et elle est décorée de la silhouette de la croix de Saint-Jacques qui est faite avec du sucre glace. Et donc cette croix, c'est devenu l'un des éléments les plus distinctifs du gâteau. Bien que la tarte de Santiago soit originaire de Galice, elle est aujourd'hui l'un des desserts les plus populaires en Espagne. On peut le trouver dans la plupart des pâtisseries et restaurants du pays. Et il est particulièrement populaire donc pendant les fêtes de Pâques et de Noël. En outre, il est devenu un symbole de la culture galicienne à l'étranger et c'est l'un des produits les plus demandés par les touristes qui visitent la région. Donc je vais vous laisser déguster. Et vous allez me dire...
Donc là, on est en train de déguster. Est-ce que vous appréciez ou pas?
Alors oui, c'est très bon.
C'est super bon. Il y a des noix dedans.
Franchement, très bon.
Merci.
Bien joué, Valentine.
Merci.
On va faire une petite pause musicale pendant qu'on continue qu'on déguste. De déguster. À tout de suite.
Sueñas altos el poder que te han dado. Desde el cielo, no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen planetas, de repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Para amarte no quiero ver nada posible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo más. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste y cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás. Imposible, es demasiado tarde, todo es
es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, amor, no, 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 no. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
Eh bien, donc est-ce que vous avez trouvé les ingrédients ?
Bah, je pense qu'il y avait des fruits à coque, comme de l'amande.
Oui. Ouais.
Moi, j'ai senti une petite touche de citron.
Ouais.
Ouais, et il y avait un autre truc aussi, mais on le sent un peu moins.
Ah, de la cannelle, non ?
Oui.
Ouais.
Bon, après, les ingrédients de base, sucre, œufs, voilà.
Oui. Ok.
Bah, merci pour.
Merci d'avoir... à vous.
Bah, ouais, merci à vous. Et voilà. Bonne journée.
Merci.
Bye.
Et bah, on va lancer un petit jingle musical et après, on continuera avec, avec la cuisine mexicaine.
Parle dans le micro.
Comme ça m'angoisse les interviews, j'arrive pas à parler.
C'est
en plus.
C'est mémorable. On passe à la radio aujourd'hui quand même.
C'est l'enfer.
Studio Zephyr Vendôme, c'est sur le 91.7 FM. Et partout dans le monde sur studiozef.fr.
Bon, après avoir parlé de gâteau espagnol, quoi de mieux que d'enchaîner sur la cuisine mexicaine, n'est-ce pas ?
Hola a todos, nous c'est Léa, Myriam et Daphné.
Bienvenidos dans notre reportage dédié à la nourriture mexicaine, un trésor culinaire mondial. Entre tacos, huaraches et tamales, nous allons parler de cette cuisine colorée et savoureuse.
Rejoignez-nous pour découvrir le train de vie d'une Mexicaine gérante d'un food truck. Nous allons maintenant vous mettre notre reportage qui est un peu long mais qui en vaut la peine.
Je m'appelle Lisbeth Gomez et mon food truck s'appelle Nostalgia.
Peux-tu nous parler de ton parcours avant de travailler ici ?
Je viens d'une école de commerce.
Mm-hmm.
J'ai fait une école de commerce et j'ai un master en économie sociale et solidaire. Donc je ne suis pas à la base de tout dans la cuisine, mais j'ai toujours aimé faire la cuisine.
Qu'est-ce qui t'a attiré vers le secteur de la restauration et spécifiquement vers un restaurant mexicain ?
Bon, j'ai travaillé longtemps dans la restauration comme serveuse.
Mm-hmm.
Et en arrivant en France, parce que c'était un peu compliqué aux questions de la langue. Et après, pour les food truck, en fait, j'ai toujours cuisiné à la maison. Et quand on se retrouve entre Mexicains, le point de rencontre, c'est toujours la nourriture. Ça n'existait pas ici, la vraie cuisine mexicaine. Et donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé dans les marchés avec des petites tables pour tester le marché.
Le plus dans ton travail au sein de ce restaurant ?
Moi, j'aime bien les contacts directs avec les personnes parce qu'en fait, quand on est en cuisine, normalement, on est toujours derrière.
Mmh.
Et quand il y a le food truck, on est en contact direct avec les personnes. On peut échanger par rapport à nos produits, à ce que j'ai fait comme cuisine et parler surtout sur la vraie cuisine mexicaine.
D'accord.
Donc, j'aime bien les contacts avec les personnes.
Oui. Est-ce que tu as une expérience particulière en cuisine mexicaine ou tu as appris sur le tas ?
J'ai appris avec ma mère. Tout le temps, en fait, au Mexique, on cuisine toujours avec les mamans. On est toujours autour des... La cuisine, c'est un peu le mode de vivre entre femmes et tout. Du coup, j'étais toujours en train de donner un coup de main à ma mère. Du coup, c'était comme ça que j'avais appris à cuisiner. Après, quand je me lançais dans les professionnels, j'ai commencé à m'informer, voir des recettes, suivre un peu plus des choses un peu plus formelles.
Quelles sont les compétences principales que tu as développées en travaillant dans ce restaurant ?
pour bien développer la logistique, l'organisation dans les food trucks. Je pense que j'ai développé beaucoup ça. J'ai passé une formation des normes d'hygiène. Mm-hmm. Du coup, j'ai dû instaurer ce type de nouvelles règles, organisation, tout. Chose que je ne faisais pas. Bon. Okay.
Voilà. Comment se passe une journée typique pour toi dans ce restaurant ?
Il faut préparer, anticiper des choses des fois, selon la... Selon la journée, parce que selon les emplacements et la journée, ça varie un peu le service. Mm-hmm. Donc, du coup, c'est un peu de préparation, d'organisation sur les food trucks, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui manque pas, comme on se balade toujours avec un peu de stock et pas la totalité. Donc, du coup, c'est ça, équiper le food truck. Et après, je vais sur les emplacements et branchements. J'ai conduit une remorque, donc du coup, il faut un peu galérer avec la logistique.
As-tu une équipe pour t'aider ?
Non, je suis toute seule. Okay. Simplement, quand il y a des gros événements, j'ai une personne avec moi pour m'aider à encaisser.
Comment gérez-vous le stress pendant les heures de pointe ?
Des fois, c'est dur. Bon, de toute façon, il faut y aller. Quand il y a le monde, il y a la file, il faut y aller. Il faut simplement se concentrer à envoyer.
Les plats les plus populaires ici et pourquoi selon toi les clients les adorent?
Alors pour moi les trucs qui marchent le plus c'est les empanadas, c'est des chaussons de maïs frits farcis. Ça vient un peu de Mexique mais ça se mange aussi beaucoup dans l'Amérique latine, dans le centre beaucoup, et donc du coup ça c'est un truc qui marche beaucoup. Et sinon les tacos classiques, c'est pas les tacos qu'on connaît normalement. Voilà, non, ça non. J'ai fait toujours la démarche d'expliquer. Donc c'est la galette de maïs avec du maïs nixtamalisé, qui est une procédure ancestrale au Mexique. Du coup, j'ai travaillé avec des galettes de maïs et les tacos, c'est les plus... qui se mangent beaucoup. Et le huarache, qui c'est un peu plus bourratif. Et donc du coup, les gens aiment bien un gros plat qui va les... décaler un peu. Oui. J'ai des événements que ça pointe et des autres que dans le quotidien c'est assez compliqué parce que les gens ils connaissent pas. Donc, du coup, ils font bois mexicain, ça pique, c'est pimenté. Oui. Du coup, il faut faire toute une démarche. Donc, du coup, il y a des personnes qui sont déjà tout le temps, mais des autres qui sont en train de découvrir.
Oui, ils ont leurs habitudes.
Oui. Mm-hmm. Je renouvelle. En fait, je change toujours les recettes. J'ai fait un truc aujourd'hui, demain je vais faire un autre.
Toujours différent.
Toujours différent. J'essaie de varier la viande, les coctions, un peu. Et donc, du coup, je pense que c'est ça qui fait. Quand il y a plus, il y a plus. Pour moi, je travaille en petite quantité pour ne pas faire beaucoup. Et je pense que ça, les gens, ils aiment bien. Et pas. Normalement, ils sont. Avoir un menu fixe, pour moi, c'est compliqué.
Oui.
Parce que ça. Ça permet pas, je pense, varier un peu la qualité des produits.
Les sauces qui sont en bas, ça pique, hein?
Qu'est-ce qui distingue ce restaurant des autres restaurants mexicains, selon toi ?
Je me rends compte que chaque fois, par exemple, quand ils disent que c'est mexicain, des fois c'est la cuisine Tex-Mex. Il y a vraiment une différence entre le Tex-Mex et la mexicaine. Mmh. Et le Tex-Mex, c'est ça qu'on appelle chile con carne, ou les gros tacos, le burrito, pour moi c'est un burrito, que c'est le gros taco. Et donc du coup, je pense que c'est surtout... ça, des fois je fais le burrito aussi, mais je le fais avec les recettes traditionnelles. Mais je pense que il n'y a pas beaucoup de concurrence. Je pense qu'à Paris il y en a plus de variétés, et donc du coup là je pourrais dire qu'on se ressemble un peu. Après moi, presque tous les Mexicains ils font que des tacos. Moi j'essaie de faire un peu d'empanadas, tostadas, huaraches, j'essaie de varier un peu.
Est-ce que tu as une spécialité ou un plat que tu recommanderais particulièrement aux clients qui découvrent la cuisine mexicaine pour la première fois?
Moi, je propose toujours goûter les tacos classiques parce que ça change l'idée de qu'est-ce qu'on a d'un taco. Mais sinon, le guarache, je pense que c'est toujours un bon plat. Il y a le maïs, l'haricot rouge, il y a la viande ou les légumes selon les goûts. Et j'utilise aussi le fromage de chèvre de la région. Donc, du coup, c'est pas mal. Ça, c'est un truc qu'ils aiment bien.
Comment gères-tu les interactions avec les clients?
Quand il y a beaucoup de monde, c'est un peu plus compliqué, mais on essaye de, quand même de parler avec eux. Mais sinon, en parlant de la cuisine, de les sauces, je pense que c'est la manière où on peut vraiment déclencher un échange.
En 60, s'il te plaît. Bonjour.
Bonjour.
C'est bon? C'est délicieux.
As-tu une anecdote marquante avec un client que tu aimerais partager?
Je pense que les clients, ils partent contents. Je pense que c'est une découverte et c'est toujours ces bons retours de oh, on ne connaît pas, c'est merveilleux. Et ça me fait,
oui, ça fait
plaisir, honnêtement. Parce qu'on essaie de faire un truc que ça soit vraiment mexicain.
Qu'est-ce qui te motive à revenir chaque jour pour offrir le meilleur service possible?
La cuisine. Moi, ça me plaît, la cuisine.
Ouais.
C'est un truc que j'aime bien, ça me plaît. Et ça me plaît beaucoup les styles de food truck. J'ai essayé une fois à faire dans un restaurant, c'était un peu déprimant d'être en arrière-cuisine tout le temps et pas avoir cet échange.
C'est ce que me dit ma mère.
Non, la prochaine,
je crois. Non, le dis au chaval, le dis au chaval.
Est-ce que tu aimerais améliorer, voire changer le fonctionnement du restaurant ou dans la manière dont les clients viennent et vivent l'expérience?
Oui, bien sûr. Ben, moi, dans l'idéal, ça serait de faire un gros laboratoire, pouvoir produire un peu plus, essayer de faire tester plus les personnes. Je pense que les personnes, ils ont peur de l'inconnu, surtout ici en France, ils sont habitués à certaines choses et c'est compliqué à changer des habitudes. Et ils sont toujours habitués à les frites, et c'est des choses qui sont récurrentes toujours. Vous vendez des frites? Non. En tout cas, je pense que ça, dans l'idéal, avoir un établissement fixe, ça serait pas mal pour faire découvrir plus les personnes.
Est-ce que vous faites une partie chez vous?
J'ai fait les préparations, lavage, compagnie, et après, j'ai fait presque tout dans les food truck.
Ouais. Pouvez-vous faire de la publicité ou enfin?
J'utilise beaucoup les réseaux sociaux et les trucs que je pense que c'est idéal, c'est être partout.
Oui.
Les choses, c'est qu'ils m'invitent à un événement, même s'il y a deux ou trois personnes qui viennent. Des fois, on va pour pas beaucoup de personnes, mais ça permet de toucher au moins
un petit public.
Oui.
Vous êtes déjà déplacé dans quel genre d'événement?
Bah, je travaille avec Rendez-vous de l'Histoire, BD Boom. Cette année, j'ai fait BD Boom.
Oui.
Et j'ai fait David Guetta à Chambord. J'essaie de bouger un peu à tous les festivals, au marché nocturne. J'ai fait le marché nocturne à Blois. Et voilà.
Vous avez un jour fixe?
J'ai des journées fixes dans la semaine. Mardi à l'INSA et vendredi à l'Allogrand. Et samedi, le marché de Blois.
D'accord.
Et j'ai fait le marché des Tours chaque 15 jours.
Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux internautes pour la fin de cette interview?
Venez déguster Mexico.
Merci beaucoup.
Que las chicas vinieron de, me hablaron de la escuela de, del liceo tenía. Y iban a hacer algo en la radio. Y entonces me dijeron si podían.
Eh ben, merci beaucoup pour cette interview qui était super bien. Qu'on a quelques petites questions à vous poser.
Oui, bah, tout d'abord, comment vous l'avez rencontré tout
Bah, du coup, je l'ai contactée grâce aux réseaux sociaux, comme elle dit qu'elle est beaucoup sur les réseaux. Du coup, on a réussi à trouver ses coordonnées sur les réseaux.
Et elle est au marché de Blois, donc ça a été beaucoup plus simple pour nous. On s'y est déplacé et on est allé l'interviewer, on a fait les bruitages et on a pu déguster quelques petites choses.
Et du coup, vous avez dégusté quoi?
Bah, du coup, on a eu l'opportunité de goûter des tacos, mais c'est pas comme des tacos qu'on mange dans des fast-foods. C'est des tacos avec y a de l'avocat dedans, il me semble, du guacamole. Enfin bref, c'était très bon.
Du piment, et c'est vraiment très différent et on s'y attend pas quand on le déguste. C'est excellent.
Ok, et bah super, on voit que ça vous a vraiment intéressé. Ouais. Merci beaucoup, ouais, et merci, du coup, oui. On va passer de suite à une nouvelle chronique.
Oui, tout à fait. Si on s'intéressait aux films et séries espagnoles, pour changer un peu de la cuisine.
Hola, bienvenue à tous dans notre chronique films et séries. Aujourd'hui, on va parler de trois films espagnols qui font sensation chez les ados.
C'est quoi notre sélection du jour ?
Aujourd'hui, on va commencer avec A través mi ventana, puis Ni una más, et pour finir, Culpa mía.
Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del wifi. Porque el wifi tiene la capacidad de unir mundos distintos. Ares Hidalgo. Una familia que, aunque viva puerta con puerta en mi casa, pertenece a un mundo muy distinto al mío. ¿Estás usando mi wifi?
¿Te crees que no se lo ve tu pequeña obsesión conmigo? Está en clave, ¿no? Se parece mucho a Ares, dios griego. Ese no es tu vecino. Lo imaginaba más alto, un poco más simpático igual.
Todos sabemos que Ares no está interesado en ninguna relación muy íntima.
Si ni siquiera eres mi tipo.
Soy la chica más interesante que has conocido en tu vida.
Me encanta esta nueva Raquel que sale de fiesta y se codea con la jet set.
Nunca me había sentido así.
¿Qué sientes por mí?
Donc vous avez pu écouter la bande-annonce de A través mi ventana. Donc le premier film de A través mi ventana est sorti sur Netflix le 4 février 2022, le second le 21 février 2023 et le dernier le 23 février 2024. Donc les acteurs sont Clara Gael et Junio Penal. Donc c'est une histoire de deux voisins, Raquel et Ares, qui se sont rencontrés quand Ares a volé son wifi. Et c'est un peu une romance interdite à la Roméo et Juliette car Ares est issu d'une famille riche.
Et est-ce qu'il y a une évolution ou des changements entre les trois films ?
Les trois films s'enchaînent, donc c'est la suite de l'histoire avec de nouveaux personnages qui se rajoutent et une nouvelle intrigue comme est-ce qu'ils vont rester ensemble ?
Ah oui, et l'actrice principale joue dans Ni una más, je crois.
Oui, et on va pouvoir passer un petit extrait de la bande-annonce.
Y Alma ?
Alma !
Es muy raro.
¿Dónde está Alma ?
Alma. Ábreme, tía, que sé que estás ahí.
¿De dónde has sacado esto?
Está rolando por ahí.
Estás un poco rara desde lo de la fiesta.
¿Qué pasó?
Me dio por andar y me perdí.
Pero dudo mucho que esa zorra acabe el bachillerato.
Oye, no te pases, que es mi amiga.
¿Seguro que no sabes quién te lo ha enviado?
Joder, joder.
Esto puede ser una broma.
No se bromea con estas cosas.
Alma, ¿te has inventado esta historia?
La série est sortie le 31 mai 2024 sur Netflix. Ça raconte l'histoire d'Alma, une ado de 17 ans qui dénonce une agression sexuelle et du harcèlement dans son lycée et comment ça bouleverse sa vie. Avec Aisha Villaverde, Clara Gale, Julio Pena, Nicolas et Gabriel Guevara comme acteurs.
Je crois aussi que certains acteurs jouent aussi dans Culpa Mía, donc tous ces acteurs sont liés un peu dans ces trois films. Donc on va pouvoir en passer aussi un bout de la bande-annonce.
Tus besos van a ser eternos.
Me prometiste que todo esto se había acabado.
¿Qué haces que me resulte tan difícil odiarte?
Will, tenemos que hacer algo.
Ahora es cuando empieza nuestra historia.
Nous venons d'écouter un extrait de Culpa Mía y Culpa Tuya, disponible actuellement sur Prime Video depuis le 8 juin 2023 et le 27 décembre 2024, avec Nicole Wallace et Gabriel Guevara. Basé sur les romans de Mercedes Ron, c'est une histoire d'amour entre un frère et une sœur par alliance, pleine de conflits et de secrets.
Waouh, ben c'était vraiment une sélection intense qu'on a fait.
Et tu remarqueras qu'on retrouve souvent les mêmes acteurs comme Clara Gaye, et Gabriel Guevara ou encore Nicole Wallace. Ça crée une sorte de connexion entre les films et séries qu'on a choisis.
Exact. Alors toi, quel a été ton film préféré et tes impressions sur ces films ?
Personnellement, j'ai préféré Culpa Mía parce que j'aime bien les romances interdites et tout. C'est captivant.
Personnellement, j'ai préféré Ni una más parce que c'est une histoire très poignante, bouleversante et qui parle de sujets très importants et sérieux.
La série dont on vous a parlé a vraiment un impact, surtout chez les ados, et elle aborde des thèmes variés, mais toujours proches de la réalité des jeunes.
Eh bah, bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés, et à bientôt
pour une nouvelle chronique.
Et bah, du coup, maintenant, on va accueillir Justine et Mila pour continuer à parler d'une aventure dans l'Amérique du Sud. Donc, vous allez parler de l'Amérique du Sud.
Oui. Bon, bah, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous allez entendre une interview de Javier, un Colombien venu en France il y a 8 ans.
Donc, on a décidé de l'interviewer car on s'est intéressé aux Latinos qui vivent à présent en France. Il nous a parlé de son pays.
Et de son adaptation à la vie française. Sur ce, nous vous laissons vous transporter dans le magnifique monde de Javier.
Donc, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bonjour. Je m'appelle Javier Andrés Nosa Hernández. J'ai 44 ans. Et je viens de Bogota, Colombie. Et moi, je suis prof de théâtre. Et je travaille ici depuis 8 ans. Et moi, j'ai fait aussi la marionnette, la sculpture. Et je travaille pour les écoles, les lycées. Et j'adore l'éducation.
Depuis quand êtes-vous en France?
Moi, j'ai arrivé ici le 21 mars de 2016.
Est-ce que vous avez des traditions de la vie de tous les jours dans votre pays?
Ouf, traditions, beaucoup. Déjà, des traditions différentes. Nous, notre petit déjeuner, c'est salé. Normalement, on mange la soupe. On peut manger la soupe tous les jours, les riz tous les jours. Et chez moi, au moins dans ma famille, on ne mange pas beaucoup de pain. On mange les galettes de maïs. On mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de riz et manioc. Et Colombie, c'est l'unique pays que tu peux manger des manioc, des pâtes, des patates, des bananes plantas dans les mêmes assiettes. Ça veut dire que tu peux avoir 5-6 féculents, toi, et même avoine avec des lait. On adore les féculents, il est frit. On mange beaucoup de frits. Et les fêtes aussi sont super différentes ici parce que les gens dansent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi, nous, la consommation des vins ou d'alcool, ce n'est pas dans la semaine, c'est seulement pour les fêtes. Je pense que ça, c'est une différence. Aussi, on vient d'un pays qui est hyper religieux. Et c'est un pays qui mélange la religion chrétienne. Et beaucoup aussi les croyances indigènes, c'est un mélange, quelque chose qu'on appelle syncrétisme. Beaucoup de traditions indigènes qui se mélangent à les traditions chrétiennes.
Quel est le plat le plus typique de votre pays?
Je peux parler de ma région, parce que comme ici en France, il y a des différences culturelles incroyables. En mon région, il y a deux choses qui sont super reconnues. Un qui s'appelle sancocho, que c'est comme une soupe. Imagine que c'est comme un poté, mais plus d'eau. Ça, c'est quelque chose que tu peux trouver presque tous les jours et avec beaucoup de maïs. Sinon, on a los tamales. C'est la pâte de maïs avec des riz, avec des cochons, avec des poulets, avec des viandes de bœuf et plus de légumes. Et tout ça vient dans une feuille de banane planta, c'est fait cuire. C'est un gros plat, c'est un plat indigène. C'est trop bon. C'est pas si light, mais c'est trop bon. Hein.
Ok, merci. Quel est le sport le plus typique?
Et le sport national de la Colombie, c'est pas le football, c'est le tejo, que c'est quelque chose pareil au palais breton. Mais la différence, c'est que tu lances un galette ou un disque, tu le lances en une surface avec de la terre et on centre un petit point qu'on l'appelle bocina. Et l'idée, c'est que la galette entre dans la bocina. Ça, c'est le sport, mais c'est vrai que le foot a beaucoup, 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 beaucoup de foot, surtout dans les populations qui ont moins d'argent. Je pense que c'est pour tout le monde. Mais ça, on fait aussi un foot à 5, que je pense que en mon pays, c'est, ça joue bien ça.
Pouvez-vous nous décrire la nature dans votre pays?
Waouh, ça c'est super compliqué parce que Colombie, je pense que ce n'est pas le premier ou le deuxième pays plus divers du monde entier. On a des oiseaux de toutes les couleurs possibles. Et Colombie, on a tous les sols, on a la montagne, on a la mer, on a des volcans, on a des îles, on a des grosses rivières, on a des forêts, on a des jungles. Ça, ça veut dire qu'on peut avoir des gros prédateurs comme les jaguars, les pumas. On est le pays qui a plus de papillons dans le monde. On a des reptiles, c'est dit? On a des reptiles, on a des crapauds et des grenouilles incroyables de toutes les couleurs. On a la grenouille plus vénéneuse du monde. On a des tout, on a des ours, on a des ours, c'est dit comme ours à lunettes, oso de anteojos, qui c'est un ours qui habite très 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 haute. On a, je ne sais pas comment ça s'est dit en français, les tamanoirs, qui mangent des fourmis.
Ah oui, c'est tapis quelque chose.
Ouais,
de...
les tapis.
Moi, je pense que c'est tamanoir. Mais...
Ah oui, tamanoir, mais aussi fourmilier à collier.
Ah, je ne suis pas si con.
Non. bravo.
Donc, elle est comment l'architecture en Colombie?
En Colombie, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses indigènes, il y a beaucoup de travail en guadua, au bambou. Nous, notre variété de bambou s'appelle guadua. On travaille beaucoup la terre. Et aussi, il y a des choses hyper modernes à Bogota, des choses qui se font tout en glace, des gros bâtiments. Mais c'est la mélange entre ça et aussi dans les grosses villes, à toute la partie de la colonie, à beaucoup de endroits que tu vois et tu penses que tu es en Espagne. Et aussi à beaucoup de choses mélangées à Bogota, bon, les grosses villes, à beaucoup de graffiti. On est un pays hyper graffiti et un pays qui mélange Europe et toutes les traditions indigènes.
Quel est l'endroit que vous trouvez le plus beau de votre pays?
Waouh, ça je pense que c'est une des questions plus difficiles. J'ai trois réponses. La première, la maison de ma maman. La deuxième, c'est la jungle. Mais la jungle, c'est tellement grande. Oh, c'est super difficile. C'est choisi entre... On a la laguna. On a la lagune de Guatavita qui était un endroit sacré. Là-bas étaient les rois indigènes de ma région. Ils lui entraient à l'eau, costumés, en or. Et tout ça a beaucoup d'histoire. Et quand tu vas là-bas, c'est un endroit unique.
Comment vous vous êtes adapté à la vie française?
Moi, je pense qu'on ne s'adapte jamais. On commence à comprendre des choses. C'est vrai que j'ai aimé avoir une porte pour échapper à mon pays une fois par semaine ou des fois une heure par jour parce que ça manque. Ça manque parce que ce n'est pas seulement la langue, c'est tout. C'est l'air, c'est les gens, c'est la manière de voir le monde. C'est difficile. Pour moi, mon première et deuxième année était une souffrance. J'ai commencé à avoir des amis, j'ai commencé à comprendre un peu mieux. Mais l'hiver, c'est trop dur. L'hiver, c'est trop dur. Les fêtes sont différentes. Avoir les amis loin, c'est dur. Mais aussi, la société française, c'est une société intéressante. Je trouve sont tranquilles. Sont plus tranquilles que chez nous. Et ici, j'ai trouvé... Et le calme, la sécurité, c'est un pays assez propre et sûr. Ça, c'est intéressant aussi. Des fois, ça manque la folie, mais pour la folie, moi, je suis là.
Ah oui. Quelles sont les différences entre la vie quotidienne des deux pays?
Je sens qu'ici, les gens sont beaucoup individualistes. Je ne vois pas la communauté, toi, dans mon quartier. Et des fois, tu as acheté ton pain et tu trouves quelqu'un, ton voisin, et tu les donnes des pains à ta voisine. On te dit, viens, on mange ensemble. C'est trop famille. On est trop habitué à ça, faire des fêtes ensemble, de parler n'importe à qui, dans les bus. Disons que les gens, c'est trop collé à les autres. Et une chose, c'est qu'en Colombie, c'est vrai que le truc qui aide beaucoup, c'est que les gens, ou c'est chrétien, ou c'est athée. Tu vois, a pas de différence de religion, parce que les gens qui ne croient pas en Dieu, te disent rien pour croire en Dieu, et vice-versa. Ici, c'est différent parce qu'il y a beaucoup de mélanges des nationalités, beaucoup, c'est différent, toi, parce que les gens se voient comme des peuples différents. Nous, d'une manière ou d'une autre, on s'identifie comme un seul peuple. Toi, ça, c'est un truc hyper différent.
Pourquoi avez-vous quitté votre pays?
J'ai quitté mon pays grâce à des yeux bleus. J'ai travaillé pour le carnaval. Un jour, j'ai regardé une belle femme, une jolie femme française. Et c'est pour ça. Je suis venu à ça, à être avec elle et à prendre de sa vie, à vivre avec elle. Et moi, je suis marié depuis 6 ans.
Pour finir, nous arrivons bientôt à la période de Noël. Pouvez-vous nous dire si cette fête est similaire à la France dans votre pays?
Ah non. Non. Dans notre pays, c'est une folie. C'est vraiment un truc. C'est monstrueux. Toutes les familles sont ensemble. Moi, je sais qu'ici, il y a des gens qui sont trop famille, mais je vois des gens qui ont moi pour les 31 et tout ça. C'est fait la fête avec des amis. Non, on est méga famille, méga cadeau. Toi, c'est vrai qu'il y a une influence très, très, très proche de Nord-Amérique. Et ça veut dire que le truc d'acheter des choses, des cadeaux, de la grosse bouffe. Ça, c'est. Et en plus, c'est aussi religieux. Toi, c'est. À partir du 16, on fait une chose qui s'appelle la novena, c'est 9 jours que ça parle des trucs de comment Jésus-Christ est venu à la terre et tout ça, mais les gens chantent des choses qui s'appellent villancico. Vamos, pastores, vamos, vamos, a Belén. Et tout, depuis les petits, tout le monde chante et tout le monde dans les quartiers mange. C'est un foulé. Ça me manque de mon pays. Et aussi que chez moi, il fait chaud au Noël. Ça change.
Merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Non, mais à vous remercier, à remercier à Lycée Hôtelier parce que c'est un endroit magique. Je trouve des installations super et des gens magnifiques. Et moi, j'aimerais un jour vous visiter en son restaurant, en ton restaurant. On espère. Ok, à bientôt. Merci.
Merci.
Eh ben, j'ai trouvé que c'était super intéressant cette interview. Et du coup, j'avais une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous en avez retenu sur la Colombie?
Bah, il a l'air d'être passionné par son pays. Et c'était très beau à voir. Et oui, et même le descriptif qu'il nous a fait de la Colombie, ça a l'air très, très sympa.
Très convivial et très...
Ouais, voilà.
Et vous êtes déjà allé dans des pays d'Amérique du Sud ou...
Non, pas pour moi. Ouais, non, jamais, mais j'aimerais bien.
Hein. Un jour, hein, si Dieu le veut.
Et bah, merci beaucoup.
Et bien, sans transition, nous allons passer à... un sujet moins joyeux, mais tout aussi intéressant, n'est-ce pas, les garçons?
Effectivement. Bon, donc bonjour à tous.
Je suis Loris du lycée Hôtelier de Blois. Aujourd'hui, avec mes camarades Paul et Owen, on va vous présenter une des plus célèbres œuvres de Picasso, qui est Guernica.
Bonjour, moi c'est Paul. Pour commencer, nous allons débuter par vous remémorer le contexte historique. Et ensuite, nous allons décrire l'œuvre en vous donnant la signification de chaque élément de l'œuvre. Donc je laisse la parole à Owen.
Guernica est à la base une ville au nord de l'Espagne. Et un beau jour de printemps, le 26 avril 1937, les nazis bombardent la ville afin de montrer leur puissance militaire, pour prouver que ce sont eux qui dominent le monde.
En effet, car environ 1654 morts dans cette ville seront causées ce jour-là. Suite à cela, Picasso décide de rentrer sur le lieu et voit toutes les horreurs de la guerre. Par la suite, il décide de retranscrire cela par son art.
Donc il dira par la suite « No la pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. » Ce qui veut dire que son œuvre n'est pas faite pour décorer les maisons comme les autres tableaux. Elle a été créée pour s'en servir comme une arme offensive et défensive contre les ennemis.
Malheureusement, l'œuvre ne connut pas un succès immédiat et resta indifférent à la vue du public. Ce n'est qu'à la fin de la guerre que l'œuvre prit tout son sens et le public se rendit compte qu'elle ne résume pas seulement les événements qui se sont passés à Guernica ou en Espagne, elle résume aussi la guerre et ses horreurs.
Les points marquants sur cette œuvre sont nombreux. En premier temps, on y voit le cheval avec une langue en couteau qui représente la peur du peuple face aux barbaries. Ensuite, sur la gauche, sur le tableau, il y a un taureau qui signifie certainement l'autoportrait de Picasso, terrorisé face à tout cela.
En dessous du taureau, il y a une femme qui tient dans ses bras son fils mort. Elle représente la pitié, la douleur de la mort ou de perdre un être cher. Au centre, il y a un chevalier où l'on peut voir seulement sa tête et ses bras, tenant une épée dans une main et une fleur de l'autre. Il représente l'espoir de s'en sortir et l'espoir de retrouver un jour le bonheur.
Et pour finir avec la femme en feu, qui représente les trois dictateurs d'Europe dont on a totalement perdu le contrôle. Donc Franco, le dictateur de l'Espagne, Mussolini, le dictateur en Italie, et Hitler, le dictateur en Allemagne. Nous avons choisi ce tableau car il nous tient à cœur pour l'histoire qu'il porte et l'importance qu'il doit avoir, et il nous permet de visualiser l'horreur de la guerre et de ne surtout pas reproduire les mêmes erreurs.
Quelle serait cette toile? Quelle serait cette période?
Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? C'était une grande catastrophe. C'est personnel, n'est-ce pas? Au fond, ce sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même, des cahiers,
Eh ben, on remercie beaucoup les garçons pour cette description de ce tableau. Et du coup, pour finir, nous allons parler d'un sujet très important dans l'actualité qui peut faire débat.
Oui, car il peut être considéré comme sensible, même s'il ne devrait pas l'être.
Eh mais attendez les filles, je suis choquée. Je viens de tomber sur la vidéo d'une chroniqueuse diffamatrice, Thaïs Descuffon.
Si les femmes veulent se libérer du grand méchant patriarcat, première option, c'est tout simplement de ne plus être attirante. Être grosse, avoir du poil sous les bras, jurer comme un charretier, parler comme une racaille, se dévaloriser par un style vestimentaire immonde, etc. Bref. Non, c'est une combattante de la révolution féministe et je ne rigole qu'à moitié. Beaucoup de ces filles ont effectivement eu le cerveau lavé par le féminisme.
C'est inquiétant, ça m'effraie.
Surtout venant de la part d'une femme.
Je trouve ça très bizarre que quelqu'un puisse dire ça.
Alors comme ça, les femmes féministes sont poilues, grosses et moches. Ces personnes qui entretiennent ce genre de propos avec cette idéologie primitive et absurde sont vraiment inintéressantes.
Oui, parlons plutôt de toutes ces femmes qui se sont battues pour leurs droits, pour leur honneur.
Bah, par exemple, c'est évident, Simone Veil, la plus grande des représentantes des femmes en France.
Mais est-ce que vous connaissez aussi Clara Campoamor ?
Ah oui, c'est pas la première figure féminine reconnue en Espagne pour sa lutte pour les droits de toutes les femmes ?
Oui, si c'est ça. Elle a même dû quitter le pays durant la guerre civile en Espagne à cause du dictateur misogyne.
Mais elle a quand même réussi à faire bouger certaines mentalités dans une époque qui n'était pas destinée à l'être.
Grâce à elle, les femmes ont obtenu le droit de vote. En 1931, une avocate militante députée, la première à avoir acquis ce statut en Espagne.
Et pourtant, elle vient d'une famille modeste. Elle a dû avoir un parcours difficile.
Oui, elle a même dû travailler dès son adolescence. Elle n'a donc pas pu bien suivre ses études et pourtant, elle était remplie de savoir.
Surtout à cette époque, dans une société patriarcale où les femmes avaient peu de droits.
Et c'est seulement vers 32 ans, elle a pu entamer réellement ses études.
Après, il ne faut pas oublier que ce sujet reste une cause et un combat pour la plupart des femmes dans le monde entier.
Oui, surtout que la figure féminine n'est pas mise en avant dans tous les pays.
Puis surtout, nous trois soutenons et favorisons toutes les actions et l'honneur des femmes. C'est pourquoi cela nous tenait à cœur. Et j'espère également que le fait d'avoir abordé ce sujet permettra de sensibiliser et d'encourager d'autres personnes à parler de leur vécu et à s'engager dans les luttes.
Eh bah, merci beaucoup les filles, merci. Ça a été super intéressant de pouvoir entendre vos témoignages et même pouvoir vous écouter parler de ce sujet très important. Donc c'est la fin de ces deux oui. émissions en anglais et en espagnol.
Donc merci à tous de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup du coup au groupe d'anglais qui est passé avant et au groupe d'espagnol. On remercie aussi beaucoup Clémentine qui a pu nous permettre de faire ce stage radio.
Merci
à la professeure du CDI et aux professeurs d'anglais et d'espagnol. Donc maintenant on va mettre une playlist musicale. Et les deux émissions vont pouvoir être réécoutées en podcast à partir de dans deux semaines environ. Donc, buen día a todos y gracias por su escucha.
Merci.
Quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo, y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar, esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial.
Te sientes bien, a un paso de la luna, confía si te digo que no es una locura.
Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada dobla mi mente.
Mira, no seas indiferente, da igual lo que opinen o puedan decir.
Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente.